Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Démier et ses invités.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Si on allait mieux, toujours en compagnie de Max. Salut
bonjour,
Max.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va?
Très bien, et toi?
Est-ce que tu vas bien?
Très bien.
Bon, alors aujourd'hui je reçois Catherine Frade. Bonjour Catherine.
Bonjour François.
Ravi de vous recevoir, vous êtes psychologue, vous vous intéressez profondément aux gens et au fonctionnement normal d'être humain en tant que psychopathologue. Alors j'étais un peu étonné par ce mot psychopathologue, ça faisait un peu psychopathe.
Alors, en fait, c'est le psychologue qui s'intéresse au fonctionnement normal de l'être humain. Mm-hmm. Et le psychopathologue s'intéresse aux gens en souffrance.
Donc, d'accord.
En quoi vous avez raison, finalement?
Et alors, c'est un terme que vous avez inventé ou c'est un terme qui existe?
Non, ça existe. J'ai fait un certificat de psychopathologie du travail. Donc, c'est le terme officiel.
Parce que c'est la première fois que j'ai entendu ce terme.
Alors, pathologie, ça...
Oui, ça, je connais,
voilà,
oui.
Et psycho, voilà, l'association des deux.
Alors, vous pouvez répondre à la demande « Change-moi ». En tant que coach, vous utilisez une approche systémique, intégrative de différentes techniques pour une vision résolution positive et orientée solution.
Tout
ça, c'est bien... C'est un petit peu compliqué, tout ça.
Sur le papier, oui.
Oui.
Et puis annoncé comme ça, oui. Mais dans les faits, c'est simple. C'est un voyage que je fais avec mes clients, individus ou entreprises.
Alors, vous dites bien « client ».
Oui.
Donc, c'est pas un terme un peu péjoratif, client, par rapport à...
Non, j'ai longtemps hésité entre client et patient. Et en fait, je dis client maintenant, parce que patient, c'est celui qui patiente, qu'on attend qu'on s'occupe de lui. Et moi, les gens qui viennent me voir, on fait le voyage à deux. Voilà. Donc, la personne est vraiment acteur, actrice de sa séance et de sa vie, d'ailleurs. Et moi, je l'aide à revisiter son vécu ou à mieux voir là où elle a envie d'aller, concrètement, comment ça peut se passer dans sa vie.
Alors aujourd'hui, quand on vient vous voir, qu'est-ce qui est marqué sur votre... Vous avez une plaque à l'entrée de votre cabinet?
Non, j'ai pas mis de plaque, justement, pour pas récupérer les psychopathes.
Ou alors sur vos cartes de visite, qu'est-ce que vous marquez comme profession?
J'ai mis psychologue, coach.
Oui, parce que c'est Max qui a besoin toujours, il veut toujours connaître la profession des personnes, quoi.
Mais oui, j'ai besoin, c'est pour les synthés.
Voilà.
Donc, alors psychologue et coach, quand je veux faire court, et quand je veux tout mettre, je rajoute prospectiviste et docteur en pharmacie.
Prospectiviste?
Oui.
Alors qu'est-ce que vous prospectez?
Non, alors prospectiviste, c'est celui qui s'occupe, qui s'intéresse au futur possible pour construire le présent à partir des futurs qu'on veut ou qu'on ne veut pas, pour être pareil acteur de son destin.
Alors est-ce qu'on peut être acteur de son destin?
Je crois pas, non.
Non ?
En partie, mais pas en totalité.
Alors, pour quelle raison ?
Alors là, si je pouvais répondre en deux mots...
Ah non, mais vous avez le temps, on a une heure pour faire l'émission, donc il n'y a pas de problème.
Alors, je ne peux pas répondre à la question comme ça, en fait. Par quel vous voulez qu'on commence ?
Comme vous voulez, c'est vous l'invité, c'est vous qui êtes maître du jeu.
Alors, je vais peut-être commencer par... quand quelqu'un vient me voir, comment ça commence ? Je leur pose toujours la même question... C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous aujourd'hui? Alors, ça peut être, je veux être plus heureux dans mon travail, j'ai un souci dans mon travail ou dans ma vie personnelle, j'ai un enfant qui me pose problème, il y en a des fois qui me disent je veux être heureux, c'est pas trop. J'ai dit non, c'est une solution, c'est une bonne question. Et à partir de là, donc, je leur demande qu'est-ce qui leur manque pour atteindre cet objectif. Donc pour moi, ça c'est l'objectif annoncé. Et qu'est-ce qui leur manque? Mais je leur demande de me répondre en trois phrases.
Oh là, c'est court ça.
Voilà, donc en trois phrases, comme ça on n'a pas le temps de raconter sa vie. Donc déjà, ça rassure beaucoup les gens. Et moi, ça me permet de ne pas être embarquée dans une histoire qui est bien souvent, on va dire, mentalisée. En fait, on met des mots dessus, on croit mettre les bons mots, mais on s'aperçoit, et moi pareil, hein, je ne suis pas mieux que les autres, que les mots qu'on met, c'est par rapport à notre référentiel. Et je pars du principe qu'en fait, chacun a sa vision. De la même façon qu'on est là dans le studio, on voit chacun. Vous voyez la fenêtre, moi je vois le mur.
Moi je vous regarde, hein. Je ne regarde pas la fenêtre.
Non mais vous me voyez devant la fenêtre, moi je vous vois devant le mur, par exemple. Donc vous avez des gens, si on fait la métaphore et l'analogie, qui vont dire, non, quand je te regarde, je vois le mur. Et puis qui vont s'engueuler avec l'autre en disant, non, tu vois bien, je vois la fenêtre. Et en fait, les deux ont raison. Mais ce sont des points de vue complémentaires. Et donc, je pars de ce principe-là, c'est qu'on a toujours un point de vue unique de là où on est, et que la personne qui arrive en me décrivant sa vie, elle a son point de vue à elle, et que moi, si j'y vais petit à petit par rapport, en questionnant, comme vous êtes en train de faire d'ailleurs pour l'émission, eh bien, je vais avoir un autre point de vue que je vais lui livrer au fur et à mesure. Alors, je vais lui livrer pas par rapport à des jugements, bien sûr, mais par rapport à des questionnements. Et de ces questionnements, en utilisant les cinq sens, d'où l'intégratif. Alors, les cinq sens, pourquoi ? Parce que dans notre vie, on est, je pense, dans l'éducation, les études, puis moi qui viens du domaine scientifique, c'est pour ça que je parle du... Je suis toujours docteur en pharmacie, j'ai eu une première carrière dans l'industrie pharmaceutique, donc ça, j'ai été très fortement marquée par ça. On utilise beaucoup le sens visuel et auditif, et assez peu les trois autres sens. Alors vous allez me dire, c'est vrai que dans l'entreprise ou dans la vie de tous les jours, à moins d'aller au restaurant, le goût et l'odorat, c'est plus faible. Mais il y a un sens qui est énorme, qu'on n'utilise jamais, enfin qu'on utilise sans le savoir en fait. C'est ce qu'on appelle le sens kinesthésique, qui est le sens du toucher extérieur et intérieur. C'est-à-dire que ce que ça me fait quand j'entends quelque chose ou quand je vois quelqu'un. Et ça, on l'a tous.
Alors que comment concrètement ça peut se...
Ben, vous voyez quelqu'un pour la première fois, j'ai des amis dans la rue, à votre studio.
Enfin, vous le touchez pas immédiatement quand même.
Non, mais quand vous voyez quelqu'un, vous savez tout de suite s'il a une bonne tête, s'il rayonne, s'il fait grise mine, si vous le sentez ou vous le sentez pas.
Enfin, si par exemple la personne a des graves problèmes à ce moment-là, votre jugement va être un peu altéré quand même.
Non, c'est pas un jugement. Parce que c'est mon ressenti sera ce qu'il est. Et tout ressenti, par définition, est juste, puisqu'il n'y a que vous qui êtes dans votre corps, que moi qui suis dans mon corps, donc il n'y a que moi qui sais ce que je ressens. Et en fait, ce ressenti, à quoi il me sert ? Il me sert à poser des questions par rapport à l'autre. Donc peut-être qu'il est délirant, mon ressenti, pourquoi pas ? Il a le droit. Mais par définition, s'il est délirant, il a une certaine justesse, on va dire.
Mais vous le faites ça à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un ?
Non, que quand je suis en séance.
Par exemple, quand vous êtes venu ici dans les locaux, est-ce que vous avez eu un ressenti sur certaines personnes qui étaient présentes ?
Non, je suis arrivée en ouverture et j'ai été très bien accueillie, donc j'ai pas le ressenti positif, si je peux appeler ça ressenti, mais voilà, j'ai pas eu de couac dans le ventre, comme disent mes clients.
Alors justement, qu'est-ce qu'un couac dans le ventre ?
Alors, vous savez que le ventre, c'est notre deuxième cerveau.
Oui, même le premier. On peut dire que c'est le premier, puisqu'il y a plus de neurones dans le ventre que dans le cerveau, il paraît.
On n'arrête pas le progrès. Oui. Je connais pas les dernières études, mais je suis pas tellement surprise. Et le troisième cerveau, ça serait le cœur. C'est pas entendu parler.
Oui, bien sûr. Oui.
Et donc il y a des civilisations, type les Amérindiens, qui disent que eux réfléchissent avec leur cœur. Et bien justement, en fait, le ventre, c'est le. Alors moi, on parlait d'intégratif, j'utilise beaucoup de techniques qui viennent à la fois d'Occident, de chez nous, et puis d'Inde et de Chine. Donc j'utilise notamment le marquage émotionnel qu'il y a dans les organes. Et donc les Chinois disent d'ailleurs qu'on digère les émotions dans le ventre, mais on le dit aussi dans le langage de tous les jours. Après, quand on prend les mots du langage de tous les jours, les dictons, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un fondement à chaque fois. Et donc, quand on n'a pas digéré quelque chose, au propre comme au figuré, on peut avoir mal au ventre, même au point d'être physiquement malade. Et d'ailleurs, en général, c'est pas toujours comme ça que ça démarre. Mais on a tous entendu parler dans notre vie, soit de copains, soit d'enfants, qui s'étaient fait une maladie à l'idée de. Qui se sont rendus malades à l'idée de passer un examen et qui ont finalement eu une vraie gastro, qui n'ont pas pu aller à l'examen.
Alors vous pensez que le stress peut développer des maladies très graves ?
Oui, pas que le stress d'ailleurs. Et en fait, pour moi.
Donc il faut venir voir des gens comme vous, justement, pour éviter le.
Alors, ça serait intéressant, en effet, si chacun ressentait très bien son corps, mais on n'est pas éduqué comme ça chez nous.
Et pourquoi ?
Parce qu'on dit fais des efforts, ne t'écoute pas, avance, fais plaisir, t'es trop faible, montre que t'es fort. Donc, on a l'habitude, on est éduqué dans notre jeune temps.
Mais s'écouter, c'est pas un peu dangereux, justement, de trop. Il y a des gens qui s'écoutent trop, ils sont tout le temps malades. Donc.
Oui, alors, vous allez un peu vite pour moi. Je vais essayer de vous répondre. Mais... Il y a s'écouter et s'écouter. Là, le premier s'écouter dont je parle, c'est savoir comment fonctionne soi.
Ça, c'est le plus difficile.
Exactement. Donc ça, on le découvre avec la vie.
Mais ça, vous pouvez l'apprendre, ça ou...
Eh bien, quand les gens viennent me voir, en fait, ça fait un accélérateur par rapport à la vie. Donc, de toute façon, il n'y a pas besoin de psychologue. On vit sa vie et on s'aperçoit qu'avec le temps... On devient un peu plus sage que quand on est jeune et on comprend les choses qu'on n'avait pas comprises avant. On se dit, mince, si j'avais su ça à 20 ans, j'aurais été heureux plus tôt.
Mais donc, quand on est trop vieux, c'est pas trop tard alors ?
C'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Oui, enfin, au bout d'un certain âge, il n'y a plus beaucoup d'espoir quand même.
Si, il y a toujours de l'espoir. Toujours de l'espoir pour changer sa vision et comprendre autre chose du monde. Et donc les gens qui s'écoutent trop et bon, je sais pas si on s'écoute trop. Moi j'ai un exemple, une fois comme ça, j'avais ma fille qui était qui bougeait plus, enfin elle avait et je enfin elle disait qu'elle voulait plus aller à l'école, elle voulait pas aller à l'école ce matin-là
et elle avait quel âge ?
Une dizaine d'années.
Ouais, c'est très jeune quand même.
Voilà.
Moi aussi, à 10 ans, je ne voulais plus aller à l'école.
Alors, sur le coup, j'ai dit, écoute, tu te lèves et tu vas à l'école. Voilà, tu ne vas pas t'écouter et tu vas y aller. Et puis, au final, à 10 heures, l'école m'a appelé, évidemment, pour me dire que ma fille avait un souci. Donc, j'ai dit, bah, écoute, si tu as un souci, moi, comme je ne vois pas ce que c'est que tu ne sais pas le verbaliser, bah, je t'emmène chez le médecin. Et en fait, elle s'était fait une luxation du genou. Mmh. Et on ne le savait pas. Donc, il y avait un vrai souci. Juste, elle ne pouvait plus bouger. Voilà. Donc, elle n'avait pas pu l'identifier, bien sûr, du haut de ses 10 ans, mais je ne suis pas sûre qu'à à 20 ans, elle aurait plus su. Donc, c'est au fur et à mesure des expériences de la vie, qu'on se rend compte quel mot on peut mettre sur quel mot M-O-T, on peut mettre sur quel mot M-A-U-X, d'ailleurs.
Mais là, c'était quelque chose de physique. Mais est-ce qu'il peut y avoir la même chose pour une enfant de 10 ans sur quelque chose de plus intérieur, de plus...
Ben, quand vous avez mal au ventre, mm-hmm. pour revenir au mal de ventre, vous pouvez digérer une émotion.
Donc, on a besoin de digérer les émotions.
Bien sûr. Et donc, pour les Chinois, justement, le foie, par exemple, c'est le siège de la colère. Mmh. Donc, souvent, quand les gens font une crise de foie, bien sûr, ils ont peut-être mangé un plat trop gras. Mais des fois, quand ils ont mal sur cette zone du foie physiquement, ça peut être lié à une émotion de colère mmh. qui est latente. Donc, moi, quand la personne vient me voir, et que quand la personne arrive chez moi, je me mets en miroir, je fais le vide en moi, je n'ai pas d'a priori, et je vois ce que je ressens quand la personne me parle. Si j'ai mal sur la zone du foie, je me dis, tiens, le foie, c'est la colère. Donc, je vais lui poser, je lui dis pas, je lui dis, est-ce que vous avez un sujet de colère dans votre vie ? Et dans 100% des cas, ah oui, oui, il y a tel truc, etc. Et donc, à ce moment-là, on va travailler sur cette colère. Et en la dénouant, par le questionnement, par je lui demande de me raconter ce qui s'est passé, et on essaye de voir sous un autre angle comment ça peut être vu. Alors, l'autre angle, c'est soit comme une part de tarte, on prend un autre angle de la part de tarte, on élargit la situation en disant oui, donc qu'est-ce qui a mené à ça et quelle peut en être l'origine et encore l'origine. Et à ce moment-là, on se dit ben, par rapport à ces ondes de forme élargies, on va travailler sur tel problème qui apparemment n'a rien à voir avec le problème annoncé, mais qui serait une des causes possibles. On ne sait pas si c'est la cause en fait. Et il se trouve qu'en travaillant sur cette cause-là et en la dénouant, comme par un jeu de domino, clac, 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 non seulement ça règle ce problème, mais ça en règle d'autres qui étaient liés. Mmh. D'où la vitesse, en fait, d'amélioration des gens et pourquoi ils peuvent prendre leur vie en main. Et d'ailleurs, c'est eux qui me disent, je leur dis toujours, la séance qu'on va faire ensemble pendant une heure, c'est comme si on jouait au billard. Pendant la séance, on tape dans la boule de billard. Et après, la boule suit sa course. C'est une métaphore pour parler de l'inconscient. Donc la seule chose que je sais, c'est que au pire, ça ne leur fera rien. Et au mieux, ça fera quelque chose de bien pour leur inconscient. Mais même moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, c'est eux qui me disent ensuite, « Ah ben tiens, depuis que je t'ai vu, c'est passé ça. Alors, je t'ai vu sur telle problématique de dos, puis depuis, je ne fume plus. » Ou « Je t'ai vu sur tel problème, et puis, y a aussi telle chose qui a avancé dans ma vie. » Voilà. Et c'est pour ça que je demande toujours aux gens, d'ailleurs, de me donner des nouvelles dans les deux jours qui suivent, pour être sûr que ça ait bougé bien pour eux. Voilà.
Et ça vous arrive, Catherine, des fois, que vous rencontrez quelqu'un, mais il ne se passe rien du tout ?
Non. Par contre, ce qui arrive, c'est que les gens peuvent venir, ne sentent pas ce qui se passe. Donc, pour eux, il ne se passe rien pendant la séance. Mmh. Ils n'ont rien senti. Et tout est débloqué après. Mmh. Voilà. Et là, ils reviennent, évidemment. Et donc, au fur et à mesure, c'est comme des pelures d'oignon. On enlève la première pelure, ils ne sentent pas. Puis au fur et à mesure qu'on enlève les pelures les plus sèches, et ben après on en atteint le cœur, et là il commence à se sentir.
Alors tout à l'heure, on parlait du ventre qui est le premier ou le deuxième cerveau, ça dépend des études. Alors pour vous, quelle est l'influence la plus grande finalement ? C'est le physique tout simplement, ou c'est le cerveau qui agit sur nous-mêmes ?
Je pense que tout est lié. Alors moi je parlerais même de corps, cœur, esprit, âme.
Ah, vous parlez aussi de l'âme. Alors pour une scientifique, c'est pas courant. Enfin, si, c'est courant, parce que c'est beaucoup de gens ici qui font les deux, donc on a l'habitude, mais quand même, c'est pas si courant que ça.
En fait, il faut revenir presque à mon parcours pour comprendre.
Mais on va y venir.
Moi, je suis docteur en pharmacie, mm-hmm. j'ai été élevée en mode binaire cartésien. Mm-hmm. Et donc, je ne crois que ce que je vois. D'ailleurs, en plus, j'étais à la fac René Descartes, donc ça tombe très bien. Et donc, en plus, en travaillant dans l'industrie pharmaceutique, je faisais du contrôle de médicaments, je m'occupais des procédures, de tout ce qui était visible avec les yeux, de tout ce qui était quantifiable. Voilà.
Et on peut tout quantifier dans la pharmacologie ?
Eh bien, non, juste. Alors.
Parce que justement, en ce moment, il y a quand même des problèmes sur les essais, sur ce genre de choses.
Oui, là, je ne me risquerai pas parce que c'est un vaste sujet.
Bien sûr.
Mais il y a du très bon et du très mauvais. Il y a toute l'amplitude possible. Voilà. Ben, on essaye de quantifier. Et puis maintenant, il y a des machines de plus en plus performantes, donc c'est vrai qu'on arrive, plus on est fin dans l'analyse, plus on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, et voilà. Mais pour revenir en psycho, en fait, pour moi, la psycho, on va dire ma formation scientifique pharmaceutique, c'est la partie visible de l'iceberg, donc ce qu'on voit, ce qu'on peut quantifier. Et ce que j'ai découvert quand je suis arrivée en psycho, c'est l'autre partie, le dessous de l'iceberg. Mais comme vous savez, le dessous de l'iceberg, c'est 80%. Donc sur le coup, quand je suis arrivée là-dedans, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprenais rien. Je me suis dit, comment arriver à faire le lien entre les deux ? Et puis à un moment, j'ai fait la bascule. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce monde à côté duquel je suis passée ? Et en fait, maintenant, j'ai compris qu'il faut les deux. Donc d'un côté, il y a la partie scientifique qui est indispensable. Et de l'autre côté, et d'ailleurs les inventeurs, même scientifiques, enfin même surtout scientifiques, j'ai envie de dire, en fait, les meilleurs, c'est ceux qui avaient développé leur intuition, qui correspond, que je relie aux 80% du dessous de l'iceberg, et qui m'ont allié les deux.
Mais alors pour les gens qui ont des problèmes, est-ce qu'ils ont toujours besoin de pharmacopée ? Est-ce que vous prescrivez ou encore des...
Alors moi je prescris rien, puisque déjà en tant que pharmacien je ne peux pas prescrire, et en tant que psychologue non plus.
Vous pouvez envoyer vers un médecin
Ça m'arrive, oui, bien sûr, ça m'arrive de les envoyer, de même de vérifier qu'ils sont suivis. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrêtent des symptômes, voire des maladies, en travaillant sur eux. Et quand je parle de maladies, j'en ai même certaines qui ont arrêté des tumeurs cancéreuses. Voilà. J'irai évidemment jamais dire que je soigne des cancers parce que là pour le coup je ne fais rien. Mais c'est la personne, en réfléchissant sur son vécu, sur la façon dont des chocs émotionnels qu'elle a vécu ou qu'elle porte ont une impression dans leur corps, que tout à coup, les tumeurs se mettent à régresser et puis les cancers s'arrêtent. Alors évidemment, c'est pas généralisable, parce que c'est applicable qu'à des personnes qui vont accepter de se remettre en cause complètement et de changer leur vision. Rebelote, c'est pour ça que je parle de clients, y compris là-dedans, parce que c'est vraiment la personne qui a envie de se revoir autrement qui va faire la démarche.
Mais pour ça, vous avez beaucoup de cas ou c'est vraiment très très rare ?
Eh bien, j'en ai de plus en plus, figurez-vous.
Mais c'est des tumeurs qui sont récentes ou...
Alors là, j'en ai une, elle se reconnaîtra, on va juste taire son nom pour la radio. Donc elle était déclarée foutue par les médecins, ça faisait un an qu'elle aurait dû être morte. Les médecins lui avaient dit, de toute façon, on n'avait plus pour 4 mois à vivre. Et puis, donc elle est arrivée, je l'ai rencontrée dans un colloque de physique quantique. Et je lui ai demandé, et c'est elle qui est venue me voir, elle m'a dit, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi ? Bah, je lui ai dit, t'es prête à aller jusqu'où ? Elle m'a dit, de toute façon, je suis foutue, je vais mourir, donc carte blanche. Je lui ai dit, bon, bah écoute, carte blanche, je vois. Voilà, je peux rien te garantir, mais on va voir ce qu'on peut faire. Et en fait, en travaillant ensemble sur les différents plans corporels, psychiques, énergétiques, donc quand je parle d'énergétique, c'est l'énergie qu'on dégage de notre corps et qui correspond, qu'on peut lier à tout ce qui est inconscient individuel qu'on a vécu, qu'on porte. Eh bien, il se trouve que sa tumeur au foie a régressé, que de passer de tumeur au pluriel au foie, c'est transformé en angiome au foie en 3 mois de temps. Ça, c'était avant l'été. Après l'été, il n'y avait plus de tumeur au foie, donc le cancérologue, n'y comprenant rien, l'a envoyé faire une IRM, ils ont vérifié, il n'y a plus rien.
Voilà. Alors, comment réagit justement la médecine ?
Eh bien, c'est très intéressant parce qu'elle, du coup, évidemment, elle a repris sa joie de vivre, donc elle va faire ses... Elle continue à se faire suivre par son cancérologue et qui est effondrée en fait parce qu'une des dernières fois elle m'a raconté qu'elle allait voir son cancérologue, il lui a dit « Madame, je pense que vous n'êtes pas bien au courant de ce que vous avez comme maladie ». Il lui dit « Si, docteur, j'ai un cancer au foie, j'ai un kyste aux ovaires, j'ai une tumeur au sein, j'ai des métastases osseuses ». Et donc c'est le cancérologue qui était effondré et elle, joyeuse, au point que les autres malades de l'hôpital pensent qu'en fait c'est une accompagnante. Et donc, du fait, comme sa tumeur au foie régressait et qu'elle allait beaucoup mieux psychiquement et physiquement, du coup, ils ont dit, bon, ben, on va tenter l'opération du kyste à l'ovaire en prenant moult précautions parce qu'elle pouvait mourir aussi s'il y avait des suites de cette opération. Donc elle a accepté. L'opération s'est très bien passée. 5 jours après, elle était partie en vacances en thalassothérapie. Voilà. Et le cancer du sein, il y avait 6 cm. Il ne fait plus qu'un centimètre et demi. Et puis en lisant sur Internet l'autre fois, j'ai découvert un article où un médecin disait que les métastases osseuses, en fait, étaient liées au cancer d'origine. Donc je me dis, si finalement les métastases sont liées au cancer du foie original, qui a déjà régressé au niveau du foie, il n'y a pas de raison qu'en continuant le travail psychique, elle ne puisse pas arrêter ça aussi. Voilà. Mais c'est une découverte pour moi aussi. Mmh. Et finalement, c'est elle qui fait le travail. Moi, je suis juste un catalyseur là-dedans.
Mais alors, au départ, est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir, pour cette personne, quelle est l'origine justement de ces différents cancers ?
Alors, oui, il y avait une origine. Il y a eu, alors, de toute façon...
Il y a une seule origine ou il y a plusieurs origines ?
Non, il y en a plusieurs, mais il y a ce qu'on a vécu, nous. Mais je pense que le pire, c'est plutôt ce qu'on porte. Et comme je dis toujours, entre les deux guerres mondiales et éventuellement les guerres d'Algérie et les autres guerres, on en a tous des couches. Au propre comme figuré.
Parce que quand on voit aujourd'hui l'actualité, même moi dans ma propre famille, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, les gens décèdent uniquement... par le cancer ou par la crise cardiaque. Après, il y a des gens qui meurent d'accidents de voiture, qui se font renverser. Enfin, mais moi, ce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même énormément de gens. Alors, c'est peut-être à cause d'Internet, parce qu'on voit les sites, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde meurt d'un cancer aujourd'hui, quoi.
Alors, bon, dans le cancer, il y a énormément de causes. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que les causes psychiques qui ont un impact sur le physique. Je pense aussi qu'il y a l'environnement, peut-être l'alimentation, plein d'autres facteurs. Voilà, je veux rien stigmatiser parce que on sait pas si on s'arrête.
Vous n'avez pas l'impression qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui ou...
Il y en a de plus en plus, en effet, ouais, je trouve. Mais il y a aussi, il faut quand même savoir que je crois qu'il y a, c'est à peu près 50% des cancers qui s'arrêtent de façon spontanée, entre guillemets, vu du côté des médecins. Il y a de plus en plus de gens qui vont dans ces pratiques paramédicales. Alors, moi, je dis pas que ces pratiques remplacent les pratiques médicales, mais ça vaut le coup de les faire en parallèle. C'est comme un peu pour une dépression. Vous avez le choix d'un côté de prendre des antidépresseurs en tant que médicament, mais ça va vous soigner vos symptômes. Et ce qui va vraiment vous permettre peut-être d'arrêter la dépression, c'est un travail psychothérapeutique.
Alors le rôle de la médecine, parce que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, les gens se surveillent de plus en plus. Alors finalement, si on fait des scanners, des prises de sang à tout le monde, on va forcément trouver des problèmes. Vous ne pensez pas que c'est là où... C'est à ce moment-là qu'on peut déclencher des maladies, alors que les gens autrefois n'avaient pas tous ces moyens-là et donc pouvaient très bien vivre avec un cancer dormant et vivre très bien leur vie normale. Ou est-ce que vous pensez que ça agit ou pas, le fait de trop chercher les problèmes, quoi?
Alors votre question en fait est très vaste parce que déjà quand on cherche les problèmes, on finit par les trouver, ça c'est clair. On trouve que ce qu'on cherche, donc on va trouver quelque chose. Ensuite, vu que vous me parliez d'études, vous savez très bien comme moi que l'épigénétique, qui est une discipline assez récente, a montré que maintenant, 85% de l'expression des gènes était modifiée par l'environnement. Alors évidemment, si on est brune aux yeux marrons, on ne va pas se transformer demain en blonde aux yeux bleus. Hein. Ça c'est clair. Mais si on a un gène de telle maladie, ou de tels comportements, ou voilà, j'en sais rien, ça veut dire que l'environnement peut, à 85%, modifier l'expression de ce gène. Donc, en effet, on peut prédire, même maintenant, avec l'analyse du génome, etc., qu'on est porteur de telle maladie ou telle maladie, mais si ce gène peut être modifié, l'expression peut en être modifiée à 85%, je pense qu'il faut rester optimiste et se dire, ok, même si c'est ce gène-là, peut-être qu'en travaillant, alors le problème c'est qu'évidemment il n'y a pas de protocole au niveau humain, parce que chaque cas est unique et chaque personne somatise à sa façon.
Vous dites que chaque cas est unique, mais est-ce que nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., ça joue ou pas?
Ben bien sûr, c'est ce que je vous dis, quand je vous dis on en tire des touches avec les guerres mondiales, quels que soient les camps, qu'il y ait des vainqueurs ou des victimes, ou voilà, allemands, français, ce que vous voulez, la nationalité, les peuples... en termes de, par rapport aux descendants que nous sommes, on est tous affectés. Et bien sûr que ça joue. Et ce qui joue sur nous, c'est les deuils pas faits, les drames pas digérés.
Qu'est-ce que vous appelez les deuils pas faits?
Des morts brutales, des morts tôt, avant 60 ans, des enfants morts en bas âge, des fausses couches, des avortements.
Même des fausses couches,
oui. Alors, c'est plus difficile à comprendre pour un homme que pour une femme.
Mais ça remonte loin, c'est-à-dire, si mon arrière-grand-mère a fait une fausse couche, ça peut jouer sur moi.
Peut-être, c'est possible. Alors, mais la arrière-grand-mère, peut-être pas, mais...
Ça, on ne peut pas le savoir.
Si c'est vous qui avez un frère ou une sœur qui est mort en fausse couche, mm-hmm. ou vos parents...
Si on ne le sait pas. Peut...
Ah ben, justement. En fait, les gens ne le savent pas quand ils viennent me voir. Mm-hmm. Eh bien, en fait, on le sait. Inconsciemment, on le sait. C'est-à-dire que notre corps le sait. Il y a un bouquin qui dit « Le corps ne ment jamais ». Et c'est pour ça que c'est intéressant, ce fameux sens kinesthésique dont je vous parlais au début. Parce que, en fait, inconsciemment... Enfin, le corps qui siège les émotions a l'information. Donc vous le savez pas. Vous dites, ben moi je fonctionne comme ça. Vous avez l'habitude de fonctionner avec le corps que vous avez et le référentiel que vous avez. Et c'est en discutant avec d'autres que vous apercevez que d'autres ont un autre point de vue, un autre référentiel. Mais ça, on le fait jamais dans notre vie. Mmh. Par exemple, à la table des rouges, on va pas dire est-ce que c'est vraiment rouge vermillon, rouge foncé. On dit c'est rouge point. Mais quand on vient discuter chez moi, justement, on cherche à partir des nuances et moi je vais questionner par rapport à ce qui me semble surprenant par rapport à mon référentiel à moi. Alors mon référentiel à moi n'est pas meilleur que le vôtre, hein, je vous rassure tout de suite. C'est juste que je vais verbaliser tout ce qui me surprend, ce qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours.
Alors comment vous pouvez deviner ce genre de choses?
Ben, je ne devine pas, je vais poser une question et en fonction de la... Alors vous allez me dire quelque chose, voilà. Je vais poser... Ça va me faire quelque chose dans mon corps. Mmh. En fonction de ce que je ressens dans mon corps, ça va me guider pour vous poser une question. Mettons, vous me dites quelque chose, vous me racontez votre vie sur un... Voilà. Je vais sentir que j'ai mal au ventre. Donc si j'ai mal au ventre, je me dis, tiens, j'ai mal au ventre. Donc je vais vous dire, est-ce que vous avez mal au ventre en ce moment? Donc je vais le verbaliser, vous allez me dire non. Mmh. Est-ce que vous ne le sentez pas? Alors, ce n'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas à la minute, je vous rassure.
Pour l'instant, tout va bien.
Mais ça veut dire que vous portez un mal de ventre que vous ne sentez pas, d'accord?
Bah c'est donc plutôt sympathique.
Voilà. Mais malheureusement, on a tous récupéré du transgénérationnel des choses à notre insu, et le pire, c'est qu'on les lègue à notre insu à nos enfants. Et à partir de là, je vais vous questionner, donc je ne sais pas, par exemple, si c'est mal dans le bas-ventre, évidemment, ça peut faire penser à... Je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a des fausses couches, des avortements qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Qu'est-ce qu'il y a comme drame dans votre famille actuelle, dans votre transgénérationnel? Qu'est-ce qu'il y a comme secret de famille? Alors ça, les secrets, qu'est-ce que ça plombe de non-dit? Ou qu'est-ce qui vous... Des choses bizarres du genre, ah, on dit que dans la famille, mais... Non, c'est trop... C'est trop bizarre. Mmh. Donc, et ben en fait, ce sont ces petits indices. Et quand on les met au jour, en fait, parce que ce qui plombe, c'est ce qui est caché. Donc il suffit de le mettre au jour. Et par exemple, quelqu'un à qui on dit, tiens, dans ta famille, il n'y aurait pas, un amant caché, par exemple. Ah non, dans notre famille, il n'y a pas de ça du tout, nous, on est une famille parfaite. Alors, quand vous mettez sur 5 générations, on est bien d'accord, je crois qu'il n'y a pas une famille parfaite.
Mmh. Donc, ça, c'est sûr, oui.
Certainement, ni la vôtre, ni la mienne. Donc, comme ça, on est tranquille. Et malheureusement, on est happé là-dedans, par des jeux d'identification inconsciente intergénérationnelle. Et alors, l'outil, enfin l'astuce, c'est d'aller chercher quel problème est là. Quand on met le doigt dessus, en général, ça fait une réaction émotionnelle chez l'autre, soit un rejet, ça, ah non, pas du tout ça dans ma famille, bah, comment tu peux savoir? Tu ne sais pas ce qui s'est passé, donc il n'y a pas à rejeter. Soit tout à coup, la personne va avoir des larmes ou des plaques de colère. Enfin, y a aucune raison, voilà. Une réaction un peu bizarre. Et à partir de là, je sais que c'est là où il faut aller voir. Et ensuite, on verbalise sous forme d'hypothèse. On dit, on émet l'hypothèse que s'il y avait ça. Et si l'hypothèse est juste, tout à coup, on est... l'énergie du système s'apaise. C'est-à-dire, dans la séance, on est soulagé. On a l'impression qu'on lâche des plaques de béton. Et les gens disent toujours, ah, maintenant, je me sens libéré et je vais mieux. Et ils lâchent. La tension corporelle se lâche. D'ailleurs, le visage se lisse à la fin de la séance. On dirait qu'ils ont fait un lifting. Les yeux reprennent la vie.
Ça, vous le voyez, ça?
Ah, ça se voit physiquement. Je les mène devant la glace à la fin de la séance. Je dis, regardez-vous. Et ils sortent avec les yeux pleins de vie. Il y en a même certaines, plutôt les femmes à qui je dis ça. Je dis, si par hasard votre mari pense que vous le trompez, dites-lui juste que vous avez fait une séance et que ce n'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un que vous avez les yeux pleins de vie comme ça. C'est juste que vous êtes reconnecté à votre vie.
Eh bien, Catherine Frade, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants.
Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Démier et ses invités.
BTLV, c'est sur l'onglet boutique, l'occasion de commander les vidéos du château de Fougeray, de Brocéliande, de Rennes-le-Château et des rencontres du mystère et de l'inexpliqué 1 et 2.
KundaliniPeople.net, le premier site de rencontre entre personnes éveillées. métier, partage, amour. Rencontrez enfin des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur kundalinipeople.net ou directement sur btlv.fr. François Desmiers, tous les après-midi. Et si on allait mieux ?
Et si on allait mieux, la suite aujourd'hui avec Catherine Frade, qui est psychopathologue.
Psychologue.
Psychologue
et psychopathologue.
Et psychopathologue, voilà. On va y arriver. Parce que ça me plaisait bien, la psychopathologue. Donc là, au cours de la première partie de l'émission, on a vu un peu une forme de diagnostic sur... Mais alors, comment vous réussissez justement à ce que les gens aillent mieux ensuite, une fois que vous avez trouvé les symptômes et les causes des problèmes?
Bon, déjà en allant bien moi-même, parce que si je vais pas bien, forcément, je vais pas pouvoir transmettre la joie de vivre à mes clients, patients, comme vous voulez. Eh bien, en fait, à la fin de la séance, je vous dis, ils se sentent libérés sur le sujet donné. Donc, c'est que, pour revenir à l'image des pelures d'oignon, ils reprennent de l'énergie, ils reprennent leur vie en main, et du coup, ils ont envie d'avancer. Et en fait, ce que je leur ouvre, c'est plutôt le champ, justement, de ce monde invisible, des 80% du dessus de l'iceberg, que représente l'inconscient individuel et collectif. Sachant que, comme moi, je viens de ce monde hyper cartésien du pharmacien que j'étais et que je suis toujours. Je dis toujours, j'ai pas perdu mon diplôme. Et j'ai le pharmacien qui revient en séance aussi. Ils se disent, ah, mais si celle-là... D'ailleurs, à mes débuts, il y a 12 ans maintenant, quand je racontais ça à mes copines de l'industrie pharma, ils disaient, non, mais une autre que toi nous raconterait ça, on se dirait, les folles alliées. Mais toi, quand même, qui as défendu nos dossiers dans les ministères de santé... et qui était garant du respect des lois, si tu nous dis ça, il y a quelque chose de vrai. Et du fait que moi-même, j'ai fait ce parcours du cartésianisme à fond, enfin, j'ai pas honte de le dire, j'étais très bonne et je m'éclatais en tant que pharmacien, dans le bon sens du terme, vers ce chemin du monde invisible, et que j'allie les deux, alors là, bah, les informaticiens m'écoutent, les juristes aussi, les entreprises, bien sûr, et je pense que c'est un miroir, d'ailleurs, on communique de façon informelle avec les autres.
Alors justement, Catherine, pourquoi vous avez quitté ce monde de la pharmacopée ?
De l'industrie pharmaceutique. Oui. À hasard, entre guillemets. Maintenant, je peux vous dire que je ne crois plus du tout au hasard.
Vous avez été déçue par le...
Non, je n'ai pas été déçue du tout. J'ai eu une carrière merveilleuse en affaires réglementaires France, Europe, internationale. J'ai juste eu un coup d'arrêt brutal dans ma carrière que vous allez vite comprendre, puisque c'était le 11 septembre 2001.
Oui.
Voilà.
Mais vous n'étiez pas à New York quand même ?
J'étais pas à New York, mais j'étais dans un petit labo pharmaceutique où j'étais numéro 2 du labo. Et on devait être financé par Lehman Brothers, qui était au 5e ou 6e étage des tours. Et notre dossier était prêt à la signature et le chèque aussi pour le 13 septembre 2001.
Ah oui, ça c'est pas de chance.
Voilà.
Alors le hasard, ça existe ou pas pour vous ?
Non, ça n'existe pas, je ne crois pas.
Vous êtes comme les frères Bogdanov, qu'on a reçus ici d'ailleurs, qui ont écrit un livre sur la question.
Oui, je n'ai pas lu, mais qui doit certainement être très intéressant. Non, maintenant j'y crois plus. Je pense qu'il y a des synchronicités qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Mais néanmoins, bon, évidemment, ça a été cauchemardesque pour moi, hein, enfin pour tout le monde, mais voilà, pour moi, c'était un coup d'arrêt dans ma carrière. D'autant que donc je faisais du réglementaire à l'époque, et comme j'étais numéro 2 d'un tout petit labo, on était 11 en Europe, j'étais le seul pharmacien, je faisais tout, donc communication, marketing, business development, accords et licences, et j'ai vendu la société fin 2001, où tout le monde cherchait des sous partout, avec mon chef. Donc j'ai fait la tournée des investisseurs, ce qui fait que je me suis retrouvée, bon, on a été racheté, les gens récupéraient les produits, on virait tout le monde, donc j'ai été virée... fin 2003, la dernière virée d'ailleurs, mais virée quand même, licenciée économique.
Mmh. Comment on explique justement que des personnes qui ont créé, vous avez été à l'origine de cette société ?
Non, je n'étais pas du tout à l'origine, j'étais venue 4 ans après la création.
Vous êtes numéro 2 quand même.
Oui, mais c'est une petite société, enfin, c'est comme là.
Donc personne n'est indispensable alors, ou vous pensez que c'est triste ?
Bah non, la preuve, regardez, ils ont récupéré les produits, ils ont viré tout le monde, et les produits continuaient sur le marché.
Donc les produits peuvent vivre sans les personnes qui...
Bah, y a d'autres personnes qui s'en occupent.
Et vous pensez que ça peut fonctionner comme ça ou...
Non, ça n'a pas fonctionné comme ça, parce que justement, j'avais mis en place tout un système de développement de la société, évidemment qu'il n'y a pas... ils ont perdu 3 ans de développement derrière, mais après c'est leur problème, hein. C'est le problème des sociétés qui rachètent et qui virent les gens, sachant que c'est le capital humain et la richesse humaine de l'entreprise, ils s'en privent.
À notre époque, c'est quelque chose de courant, et Et c'est quand même quelque chose que les gens devraient prendre conscience quand même.
Ah mais ça, je suis complètement d'accord, vous prêchez une convaincue.
Qu'il n'y a pas que le fond, il y a aussi les personnes, il y a l'humain quand même qui compte.
Ben, on est d'accord. Mmh. Oui, c'est vrai que si les sociétés, les repreneurs s'intéressaient aux produits et aux gens et s'apercevaient que le capital de la société qui rachète est largement dû au capital humain, la richesse humaine des employés, ils ne vireraient pas les gens et ils essayeraient de créer une culture commune en nourrie des meilleurs aspects de chaque culture repris et repreneur. Heureusement, il y a quelques sociétés qui font ça. J'ai eu la chance d'en accompagner. Et puis, en la dose qui continue, il y a aussi des grandes structures qui faisaient la une du marché des entreprises il y a quelques années qui ont justement coulé comme ça.
Alors justement, parlons un petit peu des médicaments. On en dit beaucoup de bien et beaucoup de mal aussi. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment utile tous ces médicaments ? C'est pas une forme de business quand même ? Il y a beaucoup de business là-dedans.
C'est un business comme un autre. Néanmoins, si on se remet à l'époque où on a inventé la pénicilline, il y a quand même eu plein de gens qui ont été sauvés. Il y a encore des tas de gens qui sont sauvés avec les médicaments. Pour moi, la vision de la médecine telle qu'elle est pratiquée en France et en Occident, avec ses médicaments, etc., c'est de la médecine curative. Et moi, ce que j'utilise dans la partie psychologique, c'est sur l'équilibre global du sujet, avec justement cette médecine d'équilibre global type médecine ayurvédique ou médecine traditionnelle chinoise, qui là s'occupe des énergies qu'on dégage, de l'alimentation, etc. Et évidemment, l'un ne remplace pas l'autre. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les Chinois se forment aux techniques médicales de chez nous. Et bien chez nous, on est en train de s'ouvrir petit à petit, avec beaucoup de difficultés, aux techniques asiatiques.
Et vous pensez qu'on va y arriver finalement, un jour ? Que ça va s'ouvrir ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de médicaments qui ne servent pas à grand-chose. On a vraiment l'impression qu'il y a certains médicaments soignent pour un cas précis, mais ils détraquent tout ce qui est autour. Quoi.
Oui, tous les médicaments ont des effets secondaires, voilà. De toutes les façons. Moi, je vais pas critiquer les médicaments parce que je sais quel bienfait ça peut faire. Et dans toutes les monographies, la fameuse notice patient du médicament, il y a une section effet principal et effet secondaire. Donc, de toute façon, à partir de là, c'est normal. Chaque médicament a un effet principal, un effet secondaire. Et il y a même des médicaments qui ont été créés sur la base des effets secondaires de l'effet principal. Voilà, type des antidépresseurs qui finalement...
Alors justement, les antidépresseurs, est-ce que c'est vraiment utile ?
Si la personne a envie de se suicider, ça va peut-être l'empêcher de se suicider. Mmh. Voilà. Maintenant, c'est pas ça qui va la sortir de sa dépression. Et donc, c'est pour ça, pour refaire l'analogie à ce que je vous disais, je pense que la personne qui... et puis ça tombe très bien, parce que là, ce matin, j'ai appris une nouvelle horrible de quelqu'un qui s'est pendu. Je me dis, bon sang, plutôt que de dire au revoir à sa famille au téléphone et de se pendre dans les 5 minutes où sa femme est sortie de chez lui, il aurait peut-être mieux valu qu'il aille voir un médecin ou un psychiatre en urgence qui lui donne un antidépresseur et qu'en parallèle, il fasse une psychothérapie. Parce que si lui a envie de se pendre, la psychothérapie, ça prend quand même un petit peu de temps, même si moi, je fais de la thérapie quand même qui est rapide, c'est des thérapies brèves. Si lui, il est capable de se pendre en 3 minutes, moi, en tant que psychologue, je peux rien faire. Donc le médicament, non, les médicaments ont une vraie utilité. Après, ce qui est intéressant dans les médicaments, vous savez bien, on fait des études cliniques, on sait que l'effet placebo a un effet non négligeable qui correspond à 25 ou 30% de l'effet. Et pour moi, cet effet placebo, c'est à relier à la psychologie positive. C'est-à-dire que si on vous dit, tiens, prends ce médicament, on dit que c'est un médicament, mais c'est peut-être juste un bout de sucre, vous ne le savez pas, ça va vous guérir. Et bien, le seul fait de savoir que ça va vous guérir, évidemment, vous vous mettez en action tous vos circuits pour faire tout pour vous guérir.
Et ça vous en servait de ce genre de truc ?
Ben, la psychopositive, c'est l'effet placebo, bien sûr. Bien sûr.
Parce que là, c'est plutôt positif et sans danger, mais vous ne pensez pas qu'il y a, pour certains médicaments, justement les anxiolytiques, ce genre de choses, il y a une forme de drogue aussi. Ce sont des médicaments dont on a besoin continuellement et on n'arrive pas à en sortir.
Ouais, mais je pense qu'on peut pas tout mélanger. C'est vrai qu'il y a une addiction, je suis d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces médicaments, il faut les arrêter progressivement. Moi, j'irai jamais dire à quelqu'un d'arrêter ses médicaments. Par contre, évidemment que je travaille avec le médecin. Et quand la personne commence à aller mieux, de toute façon, spontanément, elle a envie d'arrêter ses médicaments. Dans ce cas, c'est à la personne d'aller voir avec son médecin si elle peut soit diminuer ses prix, soit les espacer, soit réduire. Mais néanmoins, ça l'a aidé dans un premier temps. Mais l'un ne remplace pas l'autre, c'est ça que je veux vous dire.
Alors donc, revenons à vous. Donc, on en était au moment où vous avez quitté, donc un petit peu forcé.
Ah oui, ça c'est plus que forcé.
Et à ce moment-là, vous n'avez pas voulu replonger dans le monde pharmaceutique? Vous êtes dit non?
Ah mais si, j'ai cherché du travail, bien sûr. Et en fait, on m'a reproché de savoir tout faire.
Ah.
Voilà, parce que comme j'étais dans cette petite société, on m'a dit, alors en fait personne ne me disait rien d'ailleurs, il n'y en a qu'un qui a eu le courage de me dire ça, qui était le pharmacien responsable de la filiale France d'une multinationale américaine, qui m'avait dit, mais tu comprends, le réglementaire ça marche, la communication ça marche, les accords et licences ça marche, et maintenant tu vends la société et ça marche. Alors nous on a du boulot plein la tête, mais je n'ai pas de poste pour toi dans une case particulière de l'organigramme. Mais si tu peux faire des factures, je te donne des missions. Donc à l'entretien, j'ai dit bah ok, sans savoir comment j'allais faire des factures. Et puis donc courant 2003, je me suis renseignée et finalement j'ai décidé de monter ma société parce que je vais rendre hommage à mon oncle ici, il se reconnaîtra. Il m'a dit mais pourquoi tu montes pas une boîte? Et je lui ai dit non, moi déjà salarié, c'est dans le privé, c'est quand même compliqué. On change quand même de société assez souvent. Monter une société à mon compte, c'est trop stressant pour moi. Mais il me dit, écoute, c'est rien du tout à faire, j'en ai pour 2 jours. Je dis, ah bon, c'est tout, bah alors vas-y, monte là, on verra. Voilà. Donc j'ai monté ma société en 2003 sans aucun business plan, pour facturer. Alors à l'époque, c'était Axel Pharm, pour accélérer les processus pharmaceutiques. Parce que je pensais que je n'avais rien faire d'autre que du réglementaire et du conseil en stratégie pour les directions générales industrie pharma. Et puis de fil en aiguille, bon, on m'envoie... Alors je fais un bilan professionnel... Comme j'étais inoccupée, on ne monte pas une société comme ça. Hein. C'est vrai qu'il faut 3 ans pour que ça tourne. Je parle le jeu des rencontres. J'entends parler d'une femme médecin, mais qui exerce en tant que en psychologie, hein, et qui très vite, au bout de 3 séances, me dit « Mais qu'est-ce que vous faites en réglementaire? Vous êtes super créative. Comment exercez-vous votre créativité là-dedans? Je vois psychologue filer au CNAM vous inscrire en psychologie du travail. C'est le plus court chemin. » Donc je suis allée pour me renseigner, n'ayant pas plus de volonté que ça. Et comme c'était septembre ou octobre, les inscriptions se clôturaient 2 jours après, donc j'ai pas eu le temps de réfléchir, je me dis bon je m'inscris, on verra plus tard. Et en fait, bah, c'est comme ça que j'ai repris un bac plus 5, niveau bac, j'ai poursuivi jusqu'à mon master 2 pour avoir un titre de psychologue, et qu'en parallèle je suis partie me former au coaching pour apprendre d'autres techniques que ce qu'on apprenait en psycho. Parce qu'en psycho, on est très formé sur tout ce qui est inconscient, système, etc., de façon très profonde, c'est un bac plus 5. Et les techniques d'application, c'est au coaching que je les ai apprises. Donc pour moi, les deux se complètent. L'un nourrit l'autre.
Alors à ce moment-là, vous étiez déjà bien dans votre peau?
Oui, j'étais déjà vieille, entre guillemets.
Finalement, pour être psychopathologue ou...
Ah non, psychopathologue, ça je ne les suis que depuis 2014.
Ou psychologue, est-ce qu'il faut être bien dans sa tête et dans son corps?
Alors quand c'est des reconversions... Il n'y a pas beaucoup de gens mal qui vont en psychologie, je pense.
Donc vous alliez bien alors?
J'allais bien, c'était vraiment une curiosité. Pour moi, c'est parce qu'on m'avait dit, va voir. Donc d'ailleurs, au début, je suis allée aux inscriptions. Je m'étais inscrite quand j'ai démarré, juste avec 3 UV, juste pour voir. Je n'avais pas du tout l'intention de faire un bac plus 5. Et j'ai râlé pendant les 3 premiers mois d'ailleurs, je peux vous dire. En me disant, c'est vrai que c'est quand même particulier ce monde. Et au bout de 3 mois, j'ai eu un déclic. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde à côté duquel je suis passée? Et je suis retournée aux inscriptions, et là j'ai fait un DUG en 1 an, et puis ça a été la passion. Je dis toujours, je suis tombée dans ma mise d'Astérix en 2003, et j'en suis pas ressortie, j'ai pas l'intention d'en sortir.
Alors tout à l'heure, on parlait de ce que l'on voit et de ce que l'on voit pas, alors qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que pour vous le monde de l'invisible?
C'est le monde du ressenti, le monde de l'intuition, le monde du lien, voilà, les liens du cœur, ça ne se voit pas, après... En ce moment, ils sont. Alors, on vit dans une époque fabuleuse parce qu'il y a énormément de recherches justement qui aboutissent. Et il y a une profession qui est fabuleuse qui est en train de nous expliquer comment fonctionne le monde, enfin, qui nous a déjà expliqué depuis longtemps, mais qu'on commence à écouter par rapport à l'être humain, qui est la physique quantique, qui nous montre avec des beaux schémas. On voit très bien les ondes qui nous relient. En fait, on est tous reliés par ces ondes invisibles avec les yeux. Et voilà, quand on se parle...
Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui encore des limites de la physique quantique. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'elle n'a pas rejoint la physique qui existe, il y a un problème quoi pour l'instant, ça reste du domaine.
C'est surtout qu'il faudrait que la physique quantique arrive à rejoindre la santé, la médecine, la psycho. Alors heureusement, il y a des initiatives là-dessus, il y a beaucoup de gens qui rejoignent les deux. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faudrait, chacun fait comme il peut, que tout le monde puisse s'ouvrir sur toutes ces techniques. Mmh. Alors après, c'est vrai que c'est difficile quand on a été formaté selon un courant particulier, qu'on nous dit c'est comme ça que ça marche, de découvrir après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de carrière, qu'il y a autre chose qu'on ne voyait pas et qui se rajoute et qui a toujours été là en fait.
Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, comment vous appréhendez ce milieu quantique ? Est-ce que vous apprenez chaque jour ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre ? Comment vous l'appréhendez ?
Pour moi, ça me permet de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Par exemple, en venant pour l'émission, là, j'ai essayé de trouver des mots simples pour expliquer. Quand vous allez à un cours de sport et que vous avez le professeur qui fait faire les exercices, quand le professeur est assis, bouge pas et donne les exercices, le cours, on s'ennuie. Mais quand il se met à bouger et à faire les mêmes exercices que tout le monde, là, il transmet son énergie. Et les gens font les exercices. Et à l'extrême, quand on va dans un match de foot, dans un stade, on voit bien les supporters, quand ils crient, quand ils bougent, etc., ils transmettent leur énergie. Alors, comme ils sont des milliers, ça transmet l'énergie aux joueurs. Donc, cette énergie, on la sent tous, on la pratique tous dans la vie de tous les jours. Mais quand on en parle, les gens disent « Ah ben non, je la vois pas, donc j'y crois pas. » Et ben, maintenant, on la voit grâce aux physiciens quantiques.
Mmh. Alors, j'ai vu aussi, quand vous m'avez envoyé votre bio, vous êtes aussi intéressé aux philosophies bouddhistes.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus ? Ça a été une sorte de ciment
Pour moi, c'est la même chose, mais c'est un fil conducteur. Donc, ces philosophies, elles existent depuis des millénaires. Mmh. Hein, et d'ailleurs, je m'aperçois qu'en fait, il y a quand même les trois quarts de la planète... entre, on va dire, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, qui ont des croyances assez similaires et complémentaires aux nôtres, on va dire, que nous, on exclut, ou qu'on n'intègre pas forcément dans notre façon de faire. Et donc, le bouddhisme, en fait, permet de verbaliser ce que la science est en train de montrer chez nous. Donc, en fait, les gens qui croient à ces philosophies bouddhistes, hindouistes, etc., ont appliqué déjà dans la vie de tous les jours, par leur spiritualité, par une façon d'être ensemble, une façon de voir le monde. Par exemple, les bouddhistes disent que notre âme décide à peu près 3 mois, je ne sais pas d'où ça sort, de naître dans tel corps et dans telle famille que vous n'avez pas choisi, certes.
Et ça, vous y croyez ?
Ben, j'y crois pas, mais je ne peux pas y croire comme ça. Il n'y a rien pour y croire. Néanmoins, c'est une hypothèse que j'utilise, parce que quand on utilise cette hypothèse qui est que la personne, l'enfant, choisit sa vie d'atterrissage, sa famille d'atterrissage, pour matérialiser des mémoires qu'il porte. Par exemple, s'il porte des mémoires d'abandon, il va arriver dans une famille qui va l'abandonner ou qui a elle-même porté des mémoires d'abandon au niveau du transgénérationnel, et que ça se valide à chaque fois dans le discours qu'on a au cours des séances, je vais finir par y croire sérieusement. Mmh. Donc pour moi, tout ça, ce sont que des hypothèses de travail. Et ce que je constate, c'est que quand même, ces hypothèses, elles se valident. Mmh. Et que tout converge. Et que chez nous, avec la science, la physique quantique, l'épigénétique, etc., on est en train de prouver ce que les yogis ont déjà dit depuis des millénaires, les médecins ayurvédiques, les médecins chinois, les bouddhistes, les hindouistes, etc. Les guerriers Maasai, si on veut changer de région.
Ben justement, quand vous expliquez que ce soit si loin de... Nous, on est en France, donc c'est quand même des philosophies qui sont très lointaines de nous. Oui. Pourquoi, nous, chez nous, on n'a pas ce genre de...
Ben parce qu'on est persuadé d'avoir raison.
Mm-hmm. Parce qu'on a eu des druides, on a eu des chamans, on a eu quand même pas mal de choses, des sorcières,
Ben, les sorcières, elles ont été brûlées sur des bûchers, donc elles ont pas envie de recommencer, donc elles se taisent.
Donc pour vous, tout ça, comment vous voyez l'avenir justement de l'évolution de ce genre de choses ? Vous pensez qu'on est sur un bon chemin et qu'on va trouver de nouvelles recettes ou finalement on doit toujours chercher, toujours trouver, finalement dans une sorte de brouillard, puisque vous dites tout à l'heure, vous n'avez aucune preuve de ce que vous ressentez.
Si on a les preuves au fur et à mesure, quand on verbalise, on s'aperçoit que enfin, ça dénoue.
C'est sur un cas, mais bon, après...
Bah, c'est pas sur un cas, ça fait quand même 10 ans que je travaille là-dedans, et j'ai quand même beaucoup de recul de personnes qui ont radicalement changé leur vie, qui ont rencontré le partenaire de leur rêve, qui des fois en une séance révolutionnent leur vie, ont le travail qui leur plaît, les problèmes avec les enfants s'arrêtent. Donc les hypothèses se valident par l'historique, on va dire, comme les historiques de l'eau dans l'industrie pharmaceutique. Où on va, si tout le monde avait cette ouverture d'esprit d'aller voir dans les autres cultures qui nous paraissent tellement à l'opposé des nôtres, en quoi ça peut être complémentaire et en quoi finalement, s'il y a quand même les trois quarts de la planète qui pensent comme ça, ça peut être peut-être pas si stupide que ça. Je pense qu'on peut aller très loin. Le souci à l'heure actuelle, c'est que, on va dire, la population va dans ces techniques de développement personnel, ses rades professionnelles, de plus en plus, heureusement. Et puis, il y a un petit nombre, par rapport à l'échelon de la planète, un petit nombre de personnes qui norment, qui continuent à penser selon les anciens courants et en essayant d'exclure toutes ces pensées complémentaires. Donc forcément, il y a un blocage. Mais la masse, alors je sais pas si on va l'atteindre ou si on va la dépasser. Quand on va dépasser la masse critique, à un moment, au-dessus, vont bien falloir légiférer pour que, par rapport à tout ça.
Alors, tout à l'heure, on a abordé un thème que j'aime beaucoup, dont on parle beaucoup dans cette émission. C'est l'âme. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'âme?
Alors là.
Est-ce que vous l'avez rencontré avec vos clients? Est-ce que c'est quelque chose dont vous servez? Est-ce que c'est important? Ou...
Oui, pour moi, toutes les âmes sont belles, déjà.
Ben, c'est une bonne nouvelle.
Voilà. Quel que soit ce qu'on fait, la façon dont on se comporte sur Terre, au niveau de l'âme, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est pur. On parlait au conditionnel, tous reliés. Ça serait une sorte d'énergie globale de l'univers, un petit bout d'énergie de l'univers, voilà, de l'univers, entre chacun de nous, serait un petit point de l'univers et tout un petit point de l'univers. Et qu'en fait, ce qui fait qu'on se comporte de façon plus ou moins acceptable, etc., et avec des gens qui ont même des comportements, là, pour le coup, de pourquoi pas de psychopathes, c'est justement ces mémoires qui nous habitent et ces croyances qui peuvent être complètement erronées. Et d'ailleurs, c'est pour ça, si on rejoint les hindouistes, les bouddhistes, etc., qui remettent la spiritualité, donc la connexion à l'âme au centre, eh bien on s'aperçoit que le reste, les manifestations physiques, c'est qu'une manifestation particulière, positive ou négative, d'une énergie qu'on porte. Voilà. Et donc, quand on est bloqué dans notre vie, ou quand on fait des malversations, ou quand il se passe des choses même difficiles, même on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais on est bloqué. Et puis, d'ailleurs, quand à force d'être bloqué, on finit par tomber malade. Et ben en fait, cette énergie qu'on porte, si on la connaît, il suffit de l'utiliser en positif ou l'utiliser en négatif. Et à ce moment-là, ça se débloque, et là, la vie devient un long fleuve tranquille. Mais en fait, la vie est une autoroute qu'on ne voit pas, pour laquelle on passe notre temps à prendre des chemins de traverse. Et on ne sait pas que c'est des chemins de traverse, c'est juste qu'on voit qu'on est bloqué dans telle direction. Et si on persévère en disant demain, bon, il faut que je fasse mieux, ça vient de moi, mais tout ne vient pas de nous, eh bien, on peut persévérer dans l'erreur et la vie va nous le renvoyer. Va dire non, quand tu prends tel chemin, c'est pas bon. Donc, on ne dit pas que c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, parce que ce qui n'est pas bon pour moi, peut-être est bon pour vous. Hein. Chacun son chemin. Mais la vie va nous bloquer. Donc, ça se repère par des schémas de répétition, des blocages à répétition dans la vie. Et puis peut-être un jour, eh ben on va arriver, pour reboucler sur le stress du début, à plus pouvoir se lever le matin pour aller faire un boulot qui nous convient pas du tout, et ainsi de suite. Et là, il est temps de se poser la question. Alors c'est pour ça que les gens malades, souvent, c'est là qu'ils commencent à se poser la question. Mais finalement, qu'est-ce que je fais dans ce boulot et cette maladie? Tiens, c'est bizarre, ma mère et ma grand-mère ont fait des cancers aussi à 33 ans. Pourquoi moi j'en fais un 33 ans? Et commencent à se poser des questions qu'on se serait jamais posées en temps normal.
Alors en allant sur votre site, j'ai vu, vous avez sur la route de l'optimisme. Alors l'optimisme, c'est quelque chose qui vous travaille?
Parce que justement, par rapport à cette vision positive ou négative de la vie, pour moi, c'est, même dans du très noir, il y a toujours une lueur de lumière à trouver et un fil lumineux à tirer.
Vous êtes sûr?
Toujours. Parce que même...
Alors comment on la trouve?
Toutes les expériences qu'on vit, si vous voulez, nous construisent. Et donc ces expériences négatives, donc moi j'ai aussi ma vie hein, avec mes expériences négatives puis de plus en plus positives. Et de toutes ces expériences négatives ou noires qu'on a pu vivre, en fait il y a une leçon à en tirer pour grandir pour soi. Si je prends l'exemple du 11 septembre 2001, évidemment c'était catastrophe, c'était terrible. Pour moi sur le coup, j'avais cauchemardé cette nuit-là que j'allais être virée, que je serais sans le sou, etc. Et c'est vrai que j'ai eu des très graves soucis financiers dans les 3 ans qui ont suivi. Mais j'en ai profité pour me repositionner dans ma vie. En fait, j'étais pas du tout dans ma vie quand j'étais en réglementaire dans l'industrie pharmaceutique. Et maintenant, ça m'amuse beaucoup plus de les aider justement à être plus humains, à fonctionner ensemble, à remettre cette humanité dans l'entreprise pour ceux qui ont envie de faire ça. Et mettre les gens sur leur chemin, sur leur raison d'être, et les entreprises sur leur raison d'être, et qu'est-ce qu'on peut apporter chacun de nous pour contribuer à un monde meilleur. Donc, l'industrie pharma est toujours en lien, mais par exemple, par rapport à une vie qui me convient à moi. Alors, j'aurais pu aussi me dire, ça y est, ma vie est finie, 3 ans de chômage, parce que c'était comme ça, quand même ça, hein, donc c'est que 2 ans. On n'est que 2 ans indemnisés. Donc je vous laisse imaginer la 3e année, hein, je suis foutue et me suicider. Bon voilà, ça aurait été la version négative. Et la version positive, c'était me prendre en main et me dire, qu'est-ce que je peux faire? Et finalement, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon pour moi?
Alors pour vous Catherine, l'optimisme, c'est le meilleur des médicaments?
Oui. Oui. C'est un bon résumé.
Et donc...
En plus, c'est contagieux.
Mais c'est difficile quand vous voyez les gens qui viennent vous voir, vos clients, c'est difficile de leur faire comprendre que c'est l'optimisme.
Mais on peut pas décider d'être optimiste. Moi, j'en ai.
Non, mais de leur montrer déjà la voie de ce que c'est.
Oui, parce que non, c'est pas si difficile que ça. Mais faut vraiment les écouter de là où ils en sont. Moi, je pense à une de mes clientes qui est arrivée chez moi en me disant, je vous préviens, avec vous, c'est l'opération de la dernière chance. Après, je me suicide.
Mmh. Ça c'est.
Vous mettez la pression. Vous mettez la pression. On a dû se voir 3 ou 4 fois, donc sur 3 mois, hein, puisque c'est à peu près la fréquence une fois par mois. Eh bien, en fait, elle n'était pas du tout dans sa vie. Elle était plombée par des choses du transgénérationnel horribles qui s'étaient passées et auxquelles elle était identifiée. Donc, en cassant ses identifications inconscientes, du coup, c'est comme si on coupait les boulets qu'on a au pied. Et puis, du coup, elle peut marcher dans sa vie. Et là, ce jour, maintenant, elle a la vie qui lui convient.
Alors, qui vient vous voir sont généralement des femmes plus que les hommes?
Beaucoup, mais de plus en plus d'hommes, en fait. Mm-hmm. De plus en plus d'hommes, et je suis très surprise parce que les hommes qui venaient, fut un temps, c'était des hommes qui avaient la cinquantaine, on va dire 45-50 ans, on va dire crise de milieu de vie. Et là, maintenant, j'ai à peu près le ratio, c'est 50-50, hommes et femmes, et des gens qui ont 28-30 ans. Mm-hmm. Et là, je me dis, alors là, c'est fabuleux que des gens si jeunes se posent des questions sur ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie et comment se réaliser. Et ils n'ont pas envie de se laisser instrumentaliser par des « il faut », « on doit » qu'ils ont entendu. Ils ont envie de faire ce qui leur plaît et de pas attendre, comme la génération du dessus, la retraite pour faire ce qui leur plaît.
Alors justement, pour essayer de comprendre, c'est des gens qui ont des réels problèmes médicaux ou des problèmes de santé, ou est-ce que c'est simplement, comme vous dites à l'instant, des gens qui veulent...
Les jeunes, ils viennent parce qu'ils ont fait un burn-out. Ils sont en burn-out. Là, les deux derniers que j'ai vus, ils sont vraiment arrêt sur image.
À moins de 30 ans?
Ouais, 28 ans. Il y en a même qui font des arrêts cardiaques, qui meurent d'infarctus à 25 ans. Hein. Mm-hmm. Donc, oui. Quand les gens sont allés à fond la caisse, alors ils ont fait des grandes écoles, ils ont poussé la machine humaine jusqu'au bout, ils sont hyper performants, ils ne sont jamais écoutés en termes de fatigue. Et c'est ce qui se passe avec un de mes derniers... mon dernier client homme qui est arrivé la semaine dernière, il a 28 ans, il m'a dit voilà, il est informaticien, j'ai toujours fait ce que je voulais dans ma vie, j'obtenais gain de cause, et là je peux plus rien faire. Je suis en burn-out, j'ose même pas le dire à mon employeur parce que c'est un aveu de faiblesse, et je veux pas être considéré comme quelqu'un de faible, et en même temps je ne peux pas retourner dans ce boulot-là, et qu'est-ce que je vais faire, et qu'est-ce que je vais dire à mon prochain employeur? Et là, il se pose les bonnes questions. Et on est resté discuter, et j'étais vraiment émerveillée de la façon, alors qu'il est informaticien, donc a priori travaillant en mode binaire, sur les procédures, sur ce qui se voit, etc., de son ouverture d'esprit sur justement tout ce qui nous gouverne, qui correspond à ce monde invisible, comme vous dites, mais qui est quand même 80% du truc.
Et bien voilà, Catherine Frall, c'est terminé. Donc grâce à vous, on a passé une heure pleine d'optimisme.
Merci.
Donc si nos auditeurs, les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur votre site, c'est catherinefrade.com. Merci à vous.
Merci François.
Pour contacter François Démier, envoyez un mail à françois@btlv.fr.
Eh bien voilà, Max, est-ce que tu es optimiste?
Toujours.
Toujours?
Oh, moi, je suis optimiste.
T'as pas besoin de consulter?
Non, j'ai pas besoin.
Bon, ben, on va attendre quelques années quand même.
Bah oui, quand même.
Pas de burn-out en vue?
Non, pas encore.
Bon. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Et puis surtout, restez connectés sur BTLV.
Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Démier et ses invités.